Il est 7h.
C'est une attaque contre la démocratie, c'est une attaque contre la liberté d'expression et c'est une attaque contre la souveraineté européenne.
Pas question de laisser traîner. Après le détournement d'un avion civil et l'arrestation d'un opposant, l'Europe ferme son ciel à la Biélorussie. Des sanctions visant l'économie du pays vont également être discutées. Une agence de publicité opaque, la promesse d'une rémunération et un message à faire passer. Des influenceurs français approchés pour dénigrer le vaccin Pfizer et ses effets. Dans ce journal aussi, le second volet de l'affaire Daval, celui des dommages et intérêts réclamés par la famille de la victime au titre du préjudice médiatique. Juste après ce journal, l'éclairage écho, Nicolas Barré.
Et des dizaines de lieux culturels encore bloqués en France par les intermittents du spectacle, situation d'autant plus choquante que le secteur de la culture a bénéficié d'aides publiques comme nulle part ailleurs.
Avant le regard international, c'est Vincent Hervouet, l'édito sport, Virginie Fulpin. Et juste avant 7h30, on retrouve Stéphane Bern, bien sûr, pour un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Quand vous dites une information, je ne sais jamais si c'est du lard ou du cochon, mais d'où vient cette expression ?
La réponse dans quelques minutes. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute d'Europe 1, vous avez fait le bon choix.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est bien plus qu'une simple vidéo qui a été diffusée hier soir par la télévision publique en Biélorussie. Elle en dit à elle seule beaucoup des méthodes d'un régime, par ailleurs déjà accusé d'avoir diffusé des confessions de détenus sous la contrainte.
Ces images, ce sont celles de l'opposant Roman Protasevich, arrêté dimanche après le détournement de l'avion de ligne à bord duquel il avait pris place.
L'air fatigué, une marque sombre sur le front, le journaliste dit être bien traité et assure être passé aux aveux concernant l'organisation, je cite, de troubles massifs.
Voilà à quoi ressemble Roman sous pression physique et morale, réagit la principale opposante en exil, Svetlana Tikhanovskaya.
Et si les États-Unis et l'ONU ont exigé sa libération immédiate, l'Union européenne, elle, contre-attaque. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1, sommet des 27 hier qui, cette fois, se sont rapidement mis d'accord.
Oui, une fois n'est pas coutume, les 27 ont réussi à agir vite et tous ensemble, à l'image de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, tous avaient bien conscience qu'il ne fallait pas rater ce rendez-vous après la provocation inédite de Minsk.
C'est une attaque contre la démocratie, c'est une attaque contre la liberté d'expression et c'est une attaque contre la souveraineté européenne.
Le ciel européen est désormais interdit aux avions biélorusses, alors que la compagnie nationale Belavia desservait une vingtaine d'aéroports en Europe, dont Roissy. Les 27 déconseillent également à leur propre compagnie le survol du pays. C'est le cas de plus de 2000 vols chaque semaine. Les Européens vont aussi allonger la liste des membres du régime, dont les avoirs en Europe sont gelés. Le président Loukachenko y figure déjà. Ils vont ajouter sur cette liste des entreprises publiques et privées. Enfin, ils veulent des sanctions qui ciblent l'économie du pays via ses exportations dans l'Union, comme les produits pétroliers. Mais elles interviendront dans un second temps, car la Commission européenne doit faire des propositions.
Les précisions d'Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Et aujourd'hui, l'OTAN va réunir ses ambassadeurs après avoir déjà demandé une enquête internationale sur le détournement de l'avion dimanche. L'actualité à l'étranger ce matin, c'est aussi le Mali. Le président et le premier ministre arrêtés hier soir par des militaires après l'annonce d'un gouvernement de transition dont ont été écartés des officiers proches des putschistes qui avaient fait tomber le dernier président en août dernier.
7h04 sur Europe 1. Mobilisation générale à Bordeaux après la découverte d'un cluster d'une cinquantaine de cas positifs à un variant rare et préoccupant.
Oui, dès ce week-end, une grande opération de dépistage a été lancée dans le quartier de Bacalan, au nord de la ville. Suivra demain le lancement de la campagne de vaccination pour les habitants du secteur. Johanna Chabas, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Bordeaux. Vaccination qui se met en place dès à présent.
Oui, les habitants de Bacalan vont pouvoir dès aujourd'hui à midi prendre rendez-vous soit dans un centre de vaccination, soit chez leur pharmacien. 19 000 doses de Pfizer et de Moderna ont été débloquées pour vacciner tout le quartier. Les autorités se donnent 3 semaines pour y arriver et l'inquiétude face à ce variant motive les habitants, même les plus sceptiques comme Kankou, 50 ans.
Je ne suis pas tout à fait pour le vaccin parce que j'avais peur de ce qu'il pouvait contenir. Et là, avec l'arrivée du variant dans le quartier, ça fait peur en fait, ça rigole plus. Je vais pouvoir bénéficier en priorité du vaccin, voilà, c'est mon devoir de citoyenne aussi qui me pousse à le faire.
Certains, trop inquiets face à ce nouveau variant, n'ont pas voulu attendre demain et se sont déjà précipités dans les centres de vaccination. Quand il reste des doses, les habitants de Bacalan peuvent les récupérer en montrant un simple justificatif de domicile, comme l'ont fait Élise et Benjamin.
C'est surtout, en fait, il y a deux jours, quand on a commencé à en parler dans les médias, là, on s'est inquiété. Du coup, on s'est dit, on va accélérer la démarche.
On avait la volonté de se faire vacciner de toute façon. C'est plutôt une bonne chose de faite, quoi.
Pour accueillir tous les habitants et écouler ces milliers de doses, dès demain, un centre de vaccination éphémère sera mis en place dans le quartier.
Johanna Chabas, envoyée spéciale d'Europe 1 à Bordeaux.
Et en pleine campagne de vaccination, l'enjeu crucial de l'information. Alors que la moindre nouvelle peut faire basculer la confiance, plusieurs influenceurs français ont révélé ces derniers jours avoir été sollicités, moyennant finances bien sûr, pour décrédibiliser le vaccin Pfizer. Yasmina Katou.
Oui, et le rôle des influenceurs aurait été d'expliquer que le vaccin Pfizer-BioNTech est 3 fois plus mortel que celui d'AstraZeneca, le tout à l'aide de documents fournis par l'agence de communication. Le youtubeur scientifique Léo Grasset, avec plus d'1 million d'abonnés, a dévoilé les instructions claires de l'agence, présenter les informations comme les leurs et ne pas utiliser le mot publicité. L'influenceur, et ça se dit médecin, dit lui aussi avoir reçu cette proposition de partenariat, environ 2000 euros pour décrédibiliser le vaccin Pfizer. Selon le youtubeur Léo Grasset, le patron de l'agence de communication serait russe. Mais s'agit-il d'une tentative de déstabilisation russe ? Impossible à dire, selon Damien Licia de l'Observatoire stratégique de l'information.
Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. On peut avoir des suppositions, on peut faire des postulats, mais en dernier ressort, être en capacité d'imputer directement l'origine de l'attaque, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe.
À noter toutefois, en avril dernier, sur le compte Twitter du vaccin russe Sputnik, plusieurs tweets dénigraient le vaccin Pfizer au profit de celui d'AstraZeneca.
Yasmina Katou, et à Hong Kong, entre désinformation en ligne et méfiance à l'égard des autorités, la ville pourrait devoir jeter des millions de doses de vaccins. À ce stade, 19% de la population a reçu une première dose, 14% la seconde. À chaque féminicide, les mêmes questions. Après le meurtre d'une jeune femme de 22 ans à Hayan, Jean Mosel, poignardé en pleine rue, son compagnon a été arrêté. Il avait déjà été visé par une plainte de la victime à l'automne dernier. Plainte qui n'a jamais été traitée par la justice.
C'est aussi un féminicide très médiatique qui revient aujourd'hui devant la justice. La cour d'assises de Vesoul doit rendre aujourd'hui sa décision sur les indemnités réclamées par la famille d'Alexia Daval.
Après la condamnation de son mari à 25 ans de prison, les proches de la victime lui réclament, Arthur Mbaché, 800 000 euros de dommages et intérêts.
En tenant compte, entre autres, de la médiatisation de l'affaire, ce qui est très hypocrite de la part de la famille d'Alexia, dit l'avocat de Jonathan Daval, Randall Schwerdorfer.
On ne peut pas se prévaloir d'un préjudice médiatique à partir du moment où on a volontairement participé à une multitude d'émissions, y compris pendant le procès. Il y a cette espèce d'hypocrisie latente de dire « j'avais pas le choix, j'étais obligé de me montrer, j'étais obligé de m'exprimer ». Je veux dire, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Alors aujourd'hui, il ne faut pas venir s'en plaindre.
Ce préjudice lié à la médiatisation, c'est parfaitement légitime pour Jean-Hubert Portejoie, qui défend Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia.
Le seul responsable, c'est Jonathan Daval. Lorsqu'il invente ce scénario de la disparition d'une joggeuse, souvenez-vous de ce comportement lors des obsèques d'Alexia, hurlant de douleur au pied du cercueil, cette médiatisation, Jonathan Daval la nourrit et les parents d'Alexia ont dû se défendre.
En plus des parents, de la sœur et du beau-frère d'Alexia, des indemnités sont aussi réclamées par une dizaine d'oncles et tantes de la victime.
Arthur Mbaché, cette décision de justice-là doit être rendue au mois d'août avec cette question centrale. Apple va-t-il devoir ouvrir son marché d'application à la concurrence ?
C'est ce que demandait Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite, devant le tribunal d'Oakland en Californie. Les 3 semaines d'audience qui viennent de s'achever ont-elles déjà donné une idée de la réponse, Clément Le Saffre ?
Eh bien, difficile à dire. Un temps, les deux parties se sont rendues coup pour coup au cours de ce procès. Ça avait plutôt mal commencé pour Epic Games, forcé de révéler des documents financiers pour étayer ses arguments. On a donc appris que Fortnite lui avait rapporté 9 milliards de dollars en 2 ans, de quoi faire voler en éclats l'image de David contre Goliath. Mais voilà, Apple, tout géant qu'il soit, a aussi tremblé lors des derniers jours du procès. Tim Cook, appelé à la barre pour défendre le modèle économique de l'App Store, a été malmené par la juge. Yvonne Rogers a d'abord qualifié de disproportionné le système de commission imposé par Apple sur les transactions dans les applications, puis s'appuyant sur une étude selon laquelle 40% des développeurs ne sont pas satisfaits par l'App Store, elle a estimé qu'une mise en concurrence pousserait peut-être Apple à s'améliorer. Des prises de position qui font douter de l'issue du procès. Si le géant américain venait à perdre, c'est tout le marché des applications qui serait chamboulé. Moins de contrôle des grandes plateformes. Pour nous, cela rendrait les applications mobiles moins chères, plus nombreuses, mais aussi moins sécurisées.
Clément Le Saffre pour Europe 1. Et puis à la veille des retrouvailles avec ses camarades internationaux à Clairefontaine, l'interview de Karim Benzema à l'équipe. Ce matin, c'est la première fois qu'il parle depuis sa sélection. L'attaquant du Real Madrid dit sa fierté de réintégrer le groupe. Il dit aussi s'être toujours considéré comme un bleu malgré ses 6 ans d'absence.
Très bien, très bien. Ne cherchez pas la petite gaffe. Dans l'interview, a priori très maîtrisée, cette communication à la veille des retrouvailles des Bleus à Clairefontaine. Et vous sentez arriver l'Euro de football, bien sûr. Merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1, il est 7h10.
Europe 1, Mathieu Béliard.
On va parler d'immigration ce matin, d'histoire coloniale, de racisme et de discrimination à 7h40. Et ce, de façon parfaitement apaisée. Ce matin, l'historien Pape Ndiaye, nouveau directeur du musée de l'immigration. Comment est-elle constitutive de l'identité française et pourquoi ce sujet est-il toujours si délicat dans le débat, pour ne pas dire explosif? Pape Ndiaye, qui est aussi le premier Français d'origine africaine à diriger le palais de la Porte Dorée, bâtiment, je vous le rappelle, construit pour l'exposition coloniale de 1931. C'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré, juste avant le regard international de Vincent Hervouette.
Oui, on va parler des chercheurs de Wuhan qui ont été hospitalisés pour une maladie qui ressemblerait fortement au Covid, et ça un mois avant que la Chine ne reconnaisse l'existence de l'épidémie.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h13, vous êtes sur Europe 1 et c'est l'heure de l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le gouvernement a fait beaucoup pour soutenir le secteur de la culture pendant la crise sanitaire et pourtant, Nicolas, les intermittents du spectacle bloquent ici et là la reprise.
Il y a une chose qui ne change pas entre le monde d'avant et le monde d'après, ce sont les revendications des intermittents du spectacle, chauffées à blanc par la CGT qui est dominante dans le secteur. Alors dans un contexte où tout le monde a envie de profiter du déconfinement, de retourner au cinéma, etc. Le blocage de dizaines de théâtres par des intermittents a quelque chose de surréaliste, pour ne pas dire d'indécent. Car il faut le rappeler, le secteur de la culture a bénéficié d'aides publiques massives. 11 milliards d'euros avancés par la collectivité, par nous tous.
Peu de pays en ont fait autant.
Aucun même. C'est pourquoi lorsque l'on entend des slogans du type « culture sacrifiée » censé justifier l'occupation sauvage de théâtres, eh bien il y a de quoi bondir. À Paris, l'Odéon a enfin été libéré ce week-end après 3 mois d'occupation, mais c'est loin d'être le cas partout ailleurs en France. Or, ces 11 milliards d'aides à la culture, eh bien, c'est 2 fois plus qu'en Italie, 5 fois plus qu'au Royaume-Uni, où de grands artistes, comédiens, musiciens des meilleurs orchestres symphoniques en sont réduits à changer de métier. C'est une vraie tragédie. C'est même 14 fois plus l'effort qu'on fait en France qu'en Espagne, où les artistes envient le sort de leurs collègues français.
Mais alors, que veulent-ils, ces intermittents en grève?
Ils ont obtenu l'an dernier une année blanche de couverture chômage, c'est-à-dire la prolongation de leurs droits jusqu'au 31 décembre prochain. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est pouvoir continuer à toucher le chômage jusqu'à l'été 2022, donc dans un peu plus d'un an, toujours sans travailler. Mais ils sont aussi en grève contre la réforme de l'assurance chômage, alors qu'ils ne sont absolument pas concernés. Il y a donc une dimension politique évidente. Les Français, et c'est tant mieux, font beaucoup pour soutenir la culture. 11 milliards, c'est quand même l'équivalent de 3 années du budget annuel de la culture en temps normal. Un peu de reconnaissance ne ferait pas de mal.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, vous restez bien à l'écoute d'Europe 1 ce matin. Philippe Vandel, Culture Média, l'émission de référence de la culture et des médias à partir de 10h tout à l'heure. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture justement, qui répondra aux questions de Philippe. Merci Nicolas Barré. Il est 7h15 sur Europe 1. L'heure de retrouver Vincent Hervouette pour son regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
3 chercheurs du fameux laboratoire de Wuhan auraient été hospitalisés pour une maladie ressemblant au Covid dès le mois de novembre 2019, un mois avant les premiers cas officiellement reconnus par la Chine.
Oui, le Wall Street Journal a publié cette note du département d'État. Elle est doublement dérangeante. D'abord, on ne peut ni la vérifier ni l'oublier, comme toutes les informations qui proviennent des services de renseignement. Début janvier déjà, ils avaient réanimé cette piste sur l'origine de la pandémie. La plupart des journaux ne lui avaient accordé aucun crédit, car c'était encore l'administration Trump. Mais La vérité est souvent gênante, indécente. François Mitterrand avait bien un cancer de la prostate, une Francisque et une double vie conjugale, comme seul l'affirmait Minute en 1981, l'hebdomadaire d'extrême droite. Si cette piste du virus, fabriquée ou cultivée en laboratoire, et qu'on laisse sciemment ou non s'échapper, devait s'avérer vraie, ce serait un terrible désaveu pour les médias mainstream qui dénonçaient l'an dernier les complotistes. Plus le temps passe, plus il faudra prendre cette hypothèse au sérieux, faute de mieux. Un an et demi après l'apparition du fléau qui a détruit 500 millions d'emplois, on ne sait toujours pas d'où il sort ni comment il en est arrivé à contaminer l'homme.
La Chine n'a pas aidé à faire la lumière ?
Oui, c'est le plus dérangeant. Hier, le porte-parole de Pékin a démenti avec indignation les affirmations du Wall Street Journal. C'est normal, il est payé pour ça. Le régime chinois a menti, au moins par omission, mais il a réussi à imposer le silence aux scientifiques, aux politiques, et il impose son mensonge au monde entier. L'équipe de chercheurs envoyée par l'Organisation mondiale de la santé a été entravée, mise sous pression, tenue en laisse, jusqu'à publier un rapport de mission qui balaye l'hypothèse de l'accident de laboratoire. Aujourd'hui, le porte-parole de Pékin brandit ce rapport comme une preuve.
L'Organisation mondiale de la santé tient depuis hier son assemblée mondiale et promet de se réformer.
Elle doit se réformer, elle a été au-dessous de tout. D'ailleurs, elle le reste en laissant Taïwan à la porte de la Réunion, sans même lui accorder le statut d'observateur, sans même accepter d'en discuter. C'est pourtant le pays qui a le mieux géré la crise, enregistrant seulement 29 morts pour 23 millions d'habitants. Il est urgent de réclamer une véritable enquête indépendante sur l'origine de ce virus pour mieux le combattre et pour éviter de nouvelles pandémies.
Vincent Hervouette, le regard international, tous les matins sur Europe 1. Il est 7h18. Dans un tout petit instant, l'édito sport, Virginie Fulpin.
La crise sanitaire a une vertu dans les tournois de tennis, mener les joueurs de l'ombre vers la lumière.
Et juste après, nous retrouverons notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les qualifications pour Roland-Garros ont commencé hier à Paris. Les joueuses et les joueurs de l'ombre tentent de décrocher leur billet pour le tournoi principal qui commence dimanche. Pour vous, c'est l'année ou jamais pour s'intéresser à eux?
Ils n'ont jamais eu autant leur chance, alors c'est le moment de la saisir. On compare souvent les qualifications à un parcours du combattant pour avoir le droit de disputer le tournoi principal et se mesurer l'espace d'un instant au mieux classé. Bien sûr que c'est toujours le cas, mais cette année, les 100 grades du tennis font beaucoup plus parler d'eux que d'habitude. De nombreux tournois ATP et WTA, c'est-à-dire les tournois pour les mieux classés chez les hommes et les femmes, ont été annulés à cause de la pandémie, alors que les tournois des circuits secondaires ont connu moins de soubresauts. Forcément, il y a une organisation moins lourde à mettre en place et moins de gens qui se déplacent. Du coup, finalement, les moins bien classés sont quasiment mieux préparés que les meilleurs. Je ne vous dis pas qu'un joueur 200e mondial va éliminer Rafael Nadal, on n'en est pas là. Mais ils sont plus prêts que jamais. D'ailleurs, à l'Open d'Australie, on a vu Aslan Karatsev, ça ne vous dit peut-être rien. C'est un Russe qui était issu des qualifications. Il est allé jusqu'en demi-finale. Ça, c'est la belle histoire de l'année. Mais au-delà de cet exemple extraordinaire, chez les hommes notamment, ils sont 11 qualifiés à avoir atteint le dernier carré dans des tournois ATP en 2021. Et ça n'arrive jamais dans de telles proportions.
Alors, il y a aussi l'ambiance particulière cette année dans les tournois qui peuvent les aider.
À Roland-Garros, il y aura un peu de public. Mais un peu seulement, rien à voir avec les tribunes bondées qu'on voit habituellement. Pendant des mois, les joueuses et les joueurs ont dû batailler devant des gradins vides. Et il y en a qui ont du mal à supporter. Je pense par exemple à Benoît Paire, qui a affiché sa déprime aux yeux de tous. Mais
oui.
Ça, c'est sûr, ça c'est bien vu. Oui. Mais quand vous êtes 150e mondial, les tribunes vides, c'est votre quotidien. Alors, crise sanitaire ou pas, le public absent, vous connaissez. Les qualifiés sont forcément moins impressionnés par un tournoi du Grand Chelem avec une jauge limitée. Ils ont moins l'impression de débarquer sur une autre planète. Ça peut les aider à avoir confiance, à rester dans leur zone de confort et donc à être meilleur. Et puis si cette crise peut au moins faire naître de belles histoires sportives, on prend, franchement. Au début du mois, une joueuse éliminée au premier tour d'un petit tournoi à Prague avait publié son prize money, l'argent qu'elle avait gagné pour s'être battue pendant 3 sets acharnés. 2,25 €.
Ah oui,
vous avez bien entendu, 2,25 €. Merci pour le café, avait-elle commenté. Si certains pouvaient avoir quelques croissants avec, ça ferait du bien. Voilà, les qualifications, ne l'oublions pas, c'est déjà Roland-Garros.
2,25 €, le café porte d'Auteuil, c'est pas garanti.
C'est pas garanti, mais c'est pour
au comptoir,
ça qu'on a envie de les encourager.
On a le droit qu'à la terrasse en ce moment. Virginie Fulpin, merci beaucoup. Porte d'Auteuil, nous y serons et nous allons vous faire vivre. Alors, il y aura moins de public, mais il y aura aussi de l'ambiance quand même. Et il y aura évidemment du beau tennis, on attend ça, les compétitions sportives. Et je vous le rappelle, au passage, Europe 1 et Radio Officielle. de Roland-Garros, dimanche pour le tournoi principal. On attend 7h23 sur Europe 1, l'heure de retrouver Stéphane Bern pour son mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ça nous est tous arrivé, on reçoit un compliment et plutôt que de s'en réjouir, on doute de la sincérité de notre interlocuteur et ainsi on se demande, c'est du lard ou du cochon ?
Ah, effectivement, une expression qu'on utilise souvent et c'est vrai que du lard, alors c'est la graisse située sous la peau du cochon, donc le lard c'est du cochon.
Je sens chez vous, Mathieu, un vif intérêt pour le sujet du jour.
C'est pas faux.
Beaucoup plus que quand j'évoque l'importance de la dynastie des Habsbourg dans le Saint-Empire romain germanique.
Ça dépend, qu'est-ce qu'ils mangeaient.
Vous m'en voyez réjoui. L'expression du lard ou du cochon va naître à la fin du XVIIIe siècle. En gros, on hésite entre deux choses qui sont a priori identiques, ou en tout cas très proches. Un peu comme dans l'expression « bonnet blanc et blanc bonnet », où là, c'est franchement pareil. Du lard ou du cochon vient en fait d'une autre expression que l'on utilisait un siècle plus tôt quand on disait « ni chair ni poisson ». C'est l'Église qui, pendant le carême, a longtemps hésité pour savoir ce qui était autorisé ou non de consommer. Les différents représentants du personnel ecclésiastique n'ayant pas tout de suite réussi à trouver un consensus à ce propos, se sont un peu entre-déchirés. Utiliser la formule du lard ou du cochon était alors une façon de se moquer de cette querelle de chiffonniers sans grand intérêt pour ceux qui ne se sentaient pas vraiment concernés. Terminons sur une pensée pleine de bon sens d'un homme politique, c'est rare, profitons-en. Chez moi, quand on tue le cochon, tout le monde rit. Sauf le cochon, c'est du Edgar Faure.
À 16h, on vous retrouve pour Historiquement Votre avec Mathieu
Noël. On réunit Jacqueline de Ribes, la dernière reine de Paris, véritable icône de mode qui a côtoyé les grandes ce monde. La comtesse Greffule, une élégante du 19e siècle qui a inspiré un personnage haut en couleur de Marcel Proust. Et Inès de la Fressange, leur point commun, elles incarnent l'élégance à la française.
À tout à l'heure, 16h. Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol et un nouveau journal à 7h30. Très bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1. Il est 7h28, on vient d'écouter Stéphane Bern, c'est du lard ou du cochon. C'est un ton de cochon qu'on vient d'avoir, Laurent Cabrol, quand même.
C'est un ton de cochon qu'on va avoir encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, alors.
Ah oui, mais je vous avais promis quand même que le soleil reviendrait en fin de semaine et que ce serait durable, voilà. Cochon qui s'en dédie. Alors en ce qui concerne la suite, eh bien, je vous dirai tout à l'heure que les températures, c'est vrai, vont bien grimper en fin de semaine, mais pour aujourd'hui, ça reste bien frais. 15 à Épinal, 16 à Deauville, 17 à Dijon, 18 à Paris, 19 à Lyon, 20 à Valence, 21 à Narbonne, 23 à Marseille. Des températures qui sont certes un peu douces, assez douces quand même dans le sud, mais très fraîches dans le nord. Il ne fait que 5 degrés à Langres et 6 à Paris en ce moment, en banlieue parisienne. Et puis vous dire que partout dans la France, en France, nous aurons un temps de nuages, d'averses, d'éclaircies et parfois d'orages, que nous aurons une poche de soleil quand même ce matin sur la vallée de la Loire et l'Orléanais, cet après-midi sur le Poitou-Charentes et le Sud-Ouest, une poche de soleil assez dense, et puis du soleil en Méditerranée, soleil tout court. Et puis que partout ailleurs, ce sera donc cette alternance de nuages et d'éclaircies. Il en sera de même d'ailleurs sur la région parisienne.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Si on tient encore 3 semaines de plus, on peut vraiment avoir un été très différent.
Les bonnes nouvelles du professeur Fontanet de l'Institut Pasteur. Nous allons retrouver un peu de légèreté cet été. Victor Dolande nous dira pourquoi. Dans ce journal également, la situation inquiétante au Mali. Le Premier ministre et le président de transition sont depuis hier soir retenus dans un camp par des militaires. Et puis d'ici quelques instants, les mystères de YouTube. Une vidéo s'est vendue plus de 700 000 $.
Juste après ce journal, pardonnez-moi, ça m'a fait bégayer. 700 000 $ la vidéo. La touche âme, juste après le journal. Le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec l'historien Pape Ndiaye. Il vient d'être nommé directeur général du musée de l'immigration à Paris. L'édito politique, Nicolas Bétou.
La gauche tenait un sommet hier pour travailler au rassemblement, mais pour le moment, l'union est un combat.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous l'entendiez ce matin sur Europe 1, le professeur Fontanet de l'Institut Pasteur. Les indicateurs sont bons et si nous tenons le rythme de la vaccination, les jours meilleurs reviendront cet été. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Si on décrypte toutes les données, on pourrait bien vivre assez sereinement nos vacances cet été ?
Oui, tous les signaux sont clairement au vert. La décrue de l'épidémie va même au-delà des espérances des spécialistes. C'est dire, en un peu plus d'un mois, le nombre d'hospitalisations quotidiennes est passé de près de 2000 à 700. Le coronavirus subit très probablement une saisonnalité, me confie un épidémiologiste. Et en ce moment, ça nous est très favorable. Si on continue à ce rythme, on pourrait même avoir moins de 5000 nouveaux cas par jour d'ici le 10 juin. Un niveau qui permet de mieux remonter et donc de mieux contenir les chaînes de contamination. Enfin, autre signal très encourageant, la campagne de vaccination progresse très fortement. On est passé de 350 000 à 500 000 doses administrées chaque jour en moyenne. Au 1er juillet, plus d'une personne sur deux aura reçu au moins une injection. Et avec l'arrivée du pass sanitaire, les Français l'ont parfaitement compris. S'ils veulent passer un été tranquille, sans Covid ou presque, ça passe d'abord par la vaccination.
Les bonnes nouvelles de Victor Dolande ce matin sur Europe 1, alors qu'à Bordeaux, c'est un déploiement massif pour barrer la route au Covid avec 19 000 doses de vaccins supplémentaires dédiées aux habitants du quartier de Bacalan. Les inscriptions pour se faire vacciner ouvrent aujourd'hui.
Au Mali, la communauté internationale demande la libération du président et du premier ministre.
Oui, parce qu'ils sont prisonniers depuis hier soir dans un camp tenu par des militaires. Ces deux hommes incarnent la transition après le renversement du président Keïta il y a quelques mois. Simon Rubin, ce coup de force replonge évidemment le pays dans une crise profonde.
Exactement. Hier, quelques heures seulement après l'annonce du nouveau gouvernement malien, des militaires ont effectivement emmené de force le président Bando et son premier ministre Mokhtar Ouane. Les militaires, mécontents de voir deux des leurs évincés du nouveau gouvernement, auraient décidé donc de le faire savoir en retenant les chefs de l'exécutif à Kati, ancien fief de la junte militaire. Il faut savoir que ce procédé, ce n'est pas une première. Le camp militaire de Kati, c'est là déjà que le précédent président élu avait été conduit de force en août dernier pour annoncer sa démission. Et ce sont, semble-t-il, les mêmes colonels qui sont à la manœuvre aujourd'hui. À l'époque, les militaires, sous la pression internationale, avaient finalement accepté de rendre le pouvoir. Et cette volte-face, ce nouvel enlèvement de l'exécutif ne manque donc pas ce matin de provoquer les condamnations internationales. Dans un communiqué commun, la mission de l'ONU au Mali, la France, les États-Unis, l'Union européenne dénoncent un coup de force qui menace la stabilité du pays. Le Mali, on le rappelle, qui est aujourd'hui en proie à de nombreuses violences djihadistes, intercommunautaires, politiques, qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés ces dernières années.
Merci Simon Rubin pour ces précisions. Et puis on apprend à l'instant qu'Air France interdit désormais le survol du sol aérien, du sol aérien, alors que l'Europe a pris des sanctions la nuit dernière à l'égard de la Biélorussie, fermant justement son espace aérien à tous ses vols.
Plus de vols Air France au-dessus de la Biélorussie, donc retour en France. Et c'est l'épilogue d'un combat de près de 2 ans que nous racontons à présent. Ce combat, c'est celui des femmes de chambre de l'Ibis des Batignolles.
Ouais, 8 mois de grève pour ces salariés qui appartenaient à une société sous-traitante. Elles dénonçaient, entre autres, le rythme effréné auquel elles étaient soumises, comme par exemple le nettoyage de 100 chambres en seulement 15 minutes. Précision, Maud Descamps.
C'est un long combat dont elles sortent épuisées mais heureuses. Les 50 femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles ont obtenu gain de cause face à leur employeur, le sous-traitant STN. Une hausse de salaire, 100 euros de plus par mois, mais aussi des primes de panier repas et surtout une baisse de leur cadence de travail, comme le détaille Candide Tisiri de la CGT.
On a affaire quand même à une lutte historique de femmes de chambre qui mène un combat historique contre le groupe Accor et la société STN depuis 23 mois. Au moment du départ de cette mobilisation, les femmes de chambre avaient une cadence moyenne de 3 chambres et demie à l'heure. Elles passent aujourd'hui à 3 chambres à l'heure et d'une moyenne de 140 chambres à 80 chambres à contrôler. Donc voilà, c'est quand même assez significatif.
Les salariés au chômage partiel depuis le premier confinement en mars 2020 attendent désormais de connaître la date de leur reprise du travail au sein du deuxième plus grand Ibis de France et d'Europe, après celui de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Les précisions de Maud Descamps pour Europe 1.
Vous le savez, on écoute le monde changer sur Europe 1. Parfois, on pourrait se demander s'il tourne très rond.
Oui, bienvenue dans le monde de YouTube et de ses mystères. Avec cette vidéo que vous connaissez peut-être.
Jolly Batman.
Alors vous entendez quelque chose d'assez banal, un petit garçon qui met les doigts dans la bouche de son petit frère, lui demandant de le mordre. Évidemment, ça va pas rater. Charlie, bébé, finit par croquer dedans et le grand se met à pleurer. On a tous vécu ça, évidemment.
Sauf que là, les parents ont mis la vidéo en ligne sur YouTube, c'était il y a 7 ans. Et 14 ans après, elle a été vue 823 millions de fois. C'est devenu culte. Et quand c'est culte, c'est monnayable, évidemment. Des collectionneurs se l'ont arraché, $760 000 il y a quelques jours simplement. Et YouTube va la retirer de sa plateforme.
Ah bon,
c'est devenu une exclusivité.
Ce sera une exclusivité.
Voilà,
la vidéo va. Et celle du petit chat qui a peur, là.
Ah, bah ça, je ne sais
pas. Celle-là, elle est à vendre ou...
Je me renseignerai.
Bertrand Chameroy, on se cotise ?
Ah, bah moi, j'ouvre une cagnotte.
C'est mon anniversaire est passé, mais on va lancer ça. Merci, Léna Higmonier. Le monde tourne bizarrement parfois, mais on est là pour le raconter, l'observer et l'accompagner avec vous, évidemment. Léna Higmonier, merci beaucoup. 7h36 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'invité politique de la matinale, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, éolienne, nucléaire, chasse au programme de l'interview. Elle répondra aux questions de Sonia Mabrouk. C'est à 8h15 ce matin. Dans un tout petit instant, Pape Ndiaye, le nouveau directeur général du palais de la Porte Dorée. Le palais, c'est un ensemble composé du musée de l'immigration et de l'aquarium tropical, qui rouvre ses portes le 1er juin après un an de travaux. On va beaucoup parler de l'immigration dans notre histoire et dans les débats d'aujourd'hui avec l'historien Pape Ndiaye. C'est le tête-à-tête Europe Matin. Mais d'abord, la Toucham, le regard des de Bertrand Chameroy.
Bonjour Mathieu, j'ai eu peur. Hein. On a cru qu'elle ne viendrait jamais, mais la réaction d'Éric Ciotti à la vidéo de McFly et Carlito vient d'arriver.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de retrouver Bertrand Chameroy à la Toucham, son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Près de 48 heures après la publication du concours d'anecdotes du président avec McFly et Carlito, nous pensions avoir fait le tour des réactions. Tout ou presque avait été dit, mais il en manquait une. Il restait ce goût d'inachevé. Mais dans la vie, tout est une question de patience. Il était 16h16 hier quand soudain... Ah ça y est, tweet d'Éric Ciotti. Il a enfin réagi. Il en a fallu du temps de réaction avant de balancer sa déclaration. Si ça a pris autant de temps, c'est sûrement que ça en valait le coup. La vidéo a été mise en ligne dimanche 10h. Éric Ciotti a publié sa punchline hier lundi 16h16. Et quelle punchline! Et alors, revenons quelques minutes avant son envoi. Jouons à qui n'a pas encore tweeté sa réaction. Monsieur Ciotti, ça fait maintenant plus de 30 heures que la vidéo de McFly et Carlito a été publiée. Vous n'avez toujours rien dit. Je vous sens hésitant là. Il est encore un peu tard pour s'exprimer. Il est un peu tard pour s'exprimer sur le sujet. Tout le monde est déjà passé à autre chose. Il va falloir prendre une décision. Je vous rappelle qu'il ne vous reste qu'un seul joker. Vous avez déjà grillé l'appel à un ami. Nous étions en ligne avec le Rassemblement National il y a un instant. Après, vous pouvez opter pour prendre de la hauteur, la sagesse et ne rien dire. Oui, je sais, ça vous intéresse pas. Non, mais même moi, en le disant, je trouvais ça con. Alors, monsieur Ciotti. Ah. Très bien, vous souhaitez utiliser le joker exhumation. Ordinateur, veuillez générer le tweet d'indignation d'Éric Ciotti. L'ordinateur propose « Qui imagine le général de Gaulle recevoir McFly et Carlito pour faire des roulades dans le jardin de l'Élysée ? C'est votre dernier mot ? C'est la bonne réaction. 30 heures. Il a fallu 30 heures à Éric Ciotti pour publier cette réaction. Le général de Gaulle exhumé, épisode 4876. Après s'être demandé si on l'imaginait mis en examen, François Fillon, si on l'imaginait livrer la France à Amazon, Ségolène Royal. C'est donc au tour d'Éric Ciotti de se prendre pour John Lennon. Imagine ton général de Gaulle invité. McFly, Carlito, vous allez dire que je suis amer. Et vous n'avez peut-être pas tort. Oh là là, on peut plus mourir tranquille. Non mais dites, vous voulez pas le laisser tranquille de Gaulle au lieu de l'imaginer dans tout un tas de situations? C'est pas Martine. Puis ça veut plus rien dire. Vous imaginez Louis XIV faire du Segway? René Coty faire une choré sur TikTok? Bah non, non, évidemment que non. La carte qui imagine de Gaulle, c'est vraiment celle qu'on abat quand on est à court d'arguments. En politique, c'est l'équivalent du plus 4 au Uno. Tu peines à trouver tes mots, invoque un mort. Voilà. Alors vous imaginez si les Français touchaient 1000 euros à chaque fois que de Gaulle est exhumé, on serait sorti de la crise depuis longtemps. On compterait 67 millions de Jeff Bezos en France. S'il vous plaît. Leave le général de Gaulle alone.
La Toucham, tous les matins à 7h40 et parfois avec des vrais morceaux de karaoké dedans. Des vrais effets spéciaux. Merci Bertrand.
Je vous en prie.
Et à demain 7h40. C'est sur Europe 1. On vous retrouve à 10h avec Philippe Vandel pour Culture Média.
Europe Matin, le 7-9.
7h43 sur Europe 1. L'exposition coloniale, 1931. L'édification de cet immense bâtiment du sud-est parisien à l'orée du bois de Vincennes, le palais de la Porte Dorée. 1200 mètres de long, un aquarium tropical qui ouvre ses portes mardi prochain. C'est aussi le site du musée de l'immigration. Mon invité ce matin, l'historien Pape Ndiaye, tout nouveau directeur général du palais de la Porte Dorée.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Pape Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez cet ensemble, ce bâtiment qui a longtemps été un bâtiment de propagande coloniale. C'était le musée des colonies de la France conquérante, je cite, la France colonisatrice et civilisatrice. Alors près d'un siècle plus tard, vous êtes le premier homme d'origine africaine à la tête de ce musée. On peut aujourd'hui regarder porter un regard apaisé sur ce pan de notre histoire, c'est possible ?
Oui, je crois, c'est un monument qui parle de l'apogée de la colonisation dans les années 30, en fait le 90e anniversaire de sa création, de l'exposition coloniale. Et donc c'est un point d'appui formidable pour parler de notre histoire, c'est notre histoire, que celle de la colonisation des différents continents. C'est donc un lieu pour faire cela, pour le faire de manière scientifique, apaisée, engagée aussi, parce qu'on parle bien entendu d'inégalités, celle du passé, celle d'aujourd'hui.
Alors c'est ce que raconte hein, ce musée, évidemment, les Polonais, les Italiens, les Asiatiques, les Africains plus tard, Français de souche. C'est un mythe finalement, la France s'est construite à travers ces vagues migratoires.
Oui, et ces vagues migratoires ne sont pas simplement récentes, ce ne sont pas seulement les vagues du XXe siècle. Nous remontons en arrière avec l'exposition permanente qui va ouvrir dans un an, jusqu'au XVIIIe siècle en fait. On va notamment parler des traites transatlantiques du XVIIIe siècle, parce que ça concerne aussi l'histoire de France. C'est une migration forcée, bien entendu, d'un point à l'autre de l'Atlantique, mais ça nous concerne aussi. Donc c'est une histoire très globale des migrations, pas simplement celle de groupes européens, par exemple, qui convergeraient vers l'Hexagone.
Oui, et d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, antérieure à l'histoire colonisatrice de la France.
Oui, c'est ça. En fait, c'est parallèle à cela, l'histoire des traites, par exemple, ou l'expulsion des protestants du royaume à partir de 1685. C'est une manière de regarder les migrations dans une perspective globale qui considère la France dans toute son extension impériale, si vous voulez, et puis qui regarde aussi vers d'autres groupes, par exemple la migration chinoise, qui ne concerne pas directement la colonisation française, mais qui est importante à partir de la Première Guerre mondiale.
Pape Ndiaye, vous êtes historien, spécialiste de la condition des Noirs américains en particulier. Nous sommes un an, jour pour jour, après la mort de George Floyd, un homme noir, je le rappelle, tué par un policier blanc, Derek Chauvin, qui a maintenu son genou sur sa nuque et causé sa mort. Alors c'est la question évidente, mais c'est l'actualité qui le demande. La question américaine, dont on parle beaucoup, est-elle comparable aux questions que l'on se pose ici, que ce soit sur la police, sur le racisme ?
Il est toujours utile de comparer, ça ne signifie pas que ce soit la même chose. Le niveau de violence aux États-Unis est bien supérieur, par exemple en ce qui concerne les policiers et d'une manière générale la société américaine. Mais il y a des questions intéressantes qui sont posées. Et d'ailleurs, on a bien vu à l'occasion des manifestations, il y a un an, après le meurtre de George Floyd, qu'en France, en Grande-Bretagne, au Japon, au Brésil, enfin dans tous les pays du monde, il y avait des manifestations à la fois pour manifester l'indignation à l'égard de ce qui s'est passé aux États-Unis, mais aussi pour parler de situations locales qui sont différentes, certes, mais qui ont quand même trait à des situations inacceptables de violence lorsque la justice est bafouée. On l'a vu, par exemple, à propos de Michel Zecler, ce producteur de musique, oui, qui a été brutalisé à l'automne dernier.
Une longue histoire d'immigration, Pape Ndiaye, et vous venez d'évoquer la révocation de l'édit de Nantes, hein, on est au XVIIe siècle, première moitié, mais une grande différence quand on s'est mis à immigrer d'Afrique ou d'Asie, la couleur de peau, ça a changé la donne.
Alors, ça change la donne dans la mesure où cela signifie une forme d'altérité. C'est une manière d'apparaître comme différent, même si l'on est né en France. Il y a une partie significative de la population, évidemment, qui est née en France et qui est d'origine africaine ou asiatique. Mais cela vous désigne, en quelque sorte, comme irrémédiablement étranger. Et donc, on doit toujours répondre à la question « Mais d'où est-ce que vous venez ?» alors même que l'on peut être né à Paris ou à Marseille. Et c'est donc peut-être cela, cette visibilité de la différence qui contraste avec des vagues migratoires venues d'Europe jusque récemment, finalement.
Je voudrais vous proposer d'écouter un petit extrait sonore de Michel Platini. C'était hier soir sur LCI, chez nos confrères d'LCI, fruit de l'immigration italienne, hein, lui-même, et en même temps l'incarnation de la France. On sait que le foot a fait beaucoup. Écoutez.
On avait une génération, on ne la chantait jamais, la Marseillaise. On a commencé à regarder les joueurs s'ils chantaient l'équipe de France en fonction de leur couleur, et parce qu'il y en a un qui était un peu plus coloré, et il disait, tiens, il ne chante pas, il ne doit pas aimer la France. Donc c'est faux, nous on ne chantait pas l'équipe de France, pourtant on était tous blancs. Vous savez, moi, pourquoi on ne chantait pas la Marseillaise ? Parce que moi je partais d'un principe que c'est un hymne guerrier. Ben, nous on n'allait pas faire la guerre, on allait jouer au foot.
Alors ce débat qui revient sans cesse, hein, de Platini à Zidane à Benzema, en passant par les Bleus de Nice Now ou ceux champions du monde de 2018. Hein, pourquoi est-ce qu'il faut
toujours interroger leur amour de la France.
Oui, et pourquoi interroge-t-on toujours les mêmes personnes, d'une certaine façon, comme si elles étaient suspectes de ne pas aimer leur pays. Or, il y a de multiples manières d'aimer la France.
Les mêmes personnes, d'une couleur différente.
Voilà. Et il y a de multiples personnes, manières d'aimer la France. Chanter la Marseillaise ou pas, ça n'est pas le seul critère, bien entendu. Et donc, on voit bien que pèse sur des migrations plus récentes et que l'équipe de France reflète, en particulier les migrations africaines, on voit bien que pèse sans cesse une sorte de soupçon, celui de ne pas être assez français ou de ne pas être français comme il faut.
Pape Ndiaye, vous dirigez le palais de la Porte Dorée, je l'ai dit simplement d'un mot, j'ai dit 1200 mètres en introduction, et je l'ai peut-être recopié bêtement, ça me paraît énorme, c'est bien 1200 mètres de long ?
C'est 12 000 mètres carrés en fait de D'accord. surface d'exposition, la longueur du bâtiment c'est quand même un peu moins, oui.
Ok, très bien, Pape Ndiaye, vous dirigez ce palais, et je l'ai dit, musée de l'immigration et aquarium tropical, et pour le coup après un an de travaux, il rouvre ses portes mardi, je ne l'ai pas vu après les travaux mais je ne saurais que le conseiller, au moins pour les enfants c'est un véritable émerveillement, mais la vie sous-marine, c'est aussi une question sérieuse, hein. C'est pas qu'un truc léger à voir avec les enfants. Ce matin, Sonia Mabrouk reçoit Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Peut-être un mot pour elle ou de la situation des eaux tropicales ?
C'est en fait l'aquarium, il montre des merveilles, bien sûr, les poissons, il y a même deux alligators, mais l'objectif, c'est un objectif pédagogique, c'est le fait de sensibiliser les visiteurs, y compris les enfants, à des questions d'environnement, à la question du réchauffement climatique, de la montée des eaux. Et donc cette question de la pédagogie, en fait, des questions d'environnement, c'est absolument central. Et donc on montre les poissons, bien entendu, mais à travers cela, on explique ce qui se passe. Au fond, l'aquarium tropical, c'est une sorte d'arche de Noé qui rassemble des espèces qui sont souvent menacées, qui sont là pour un objectif précis, y compris d'ailleurs des coraux, y compris plein de choses. Et donc, c'est absolument essentiel, en fait, de sensibiliser à ces questions. Et en sensibilisant à ces questions, eh bien, évidemment, l'objectif, c'est que les visiteurs se comportent mieux, si je puis dire, et soient plus sensibles à des questions qui, à l'évidence, sont complètement essentiel pour notre monde, notre société.
Notre passé, notre histoire pour mieux avancer, se projeter et préserver notre bien commun, la planète, les océans en l'occurrence. Merci beaucoup. Le nouveau directeur général du Palais de la Porte Dorée, le musée de l'immigration, réouverture à l'automne, l'aquarium tropical, réouverture mardi. Merci beaucoup, Pape Ndiaye.
Merci beaucoup.
Merci d'être passé ce matin par le studio d'Europe 1 où l'on écoute le monde changer. Il est 7h51.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, l'édito politique Nicolas Bétou. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h53 sur Europe 1, l'heure de l'édito politique avec Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Un nouveau sommet de la gauche s'est tenu hier à Paris, toujours avec le projet d'organiser un rassemblement de la gauche.
Oui, et tout ça bien sûr dans la perspective de 2022. Bon, la vérité oblige à dire que pour un sommet, on était plus près des Monts d'Auvergne que de l'Himalaya. Pas vraiment une réunion pour l'histoire, donc même chose en ce qui concerne les participants. Il ne s'agissait pas vraiment des premiers de cordée. Pas de chef de parti, pas de leader national.
Parce qu'il n'y croit pas ?
Il y a un peu de ça, oui. Et puis, on en est encore aux travaux préparatoires. Ce n'est que la deuxième fois que cette réunion se tient. Le chemin est encore long. D'ailleurs, à gauche, il y a ceux qui ne veulent pas d'union maintenant et ceux qui n'en veulent pas du tout. Parmi ceux-ci, Jean-Luc Mélenchon, toujours vindicatif à l'égard de ses camarades de la gauche et hostile à tout ce qui pourrait l'empêcher d'être, lui, une dernière fois, candidat à l'Élysée.
Alors, il y avait pourtant un député de la France Insoumise à cette réunion.
Exact, parce que dans ce genre de course de lenteur vers une très hypothétique union, il ne faut surtout pas être celui qui fait échouer l'accord. Jean-Luc Mélenchon n'arrête pas de pester contre les socialistes et de se méfier des Verts, mais il veut rester dans le jeu.
Et ceux qui n'en veulent pas maintenant, qui sont-ils ?
Les écolos, ou plutôt les membres du parti Europe Écologie Les Verts. Leur raisonnement est simple, rien ne presse avant les élections régionales où ils espèrent rééditer le succès des municipales de l'an dernier. Ça leur permettrait de prendre un ascendant sur le reste de la gauche, les socialistes en particulier. Et puis, ils misent tout sur l'organisation d'une primaire interne pour désigner leur candidat, mais ce sera après l'été. Et là où tout se complique, c'est que l'initiateur de ces sommets de la gauche n'est autre que Yannick Jadot, le député européen
et potentiel candidat des Verts à la présidentielle qui lui veut bousculer le calendrier, accélérer le processus, en pariant que les sondages suffiront à établir son leadership personnel face aux autres candidats de son parti. Car tous ces jeux de personnes et ces astuces de calendrier cachent en fait une nette divergence de ligne entre la direction d'Europe Écologie Les Verts d'un côté et Yannick Jadot de l'autre. D'un côté, des militants très à gauche qui forment la base et la tête du parti, et de l'autre, un candidat réputé plus modéré, ressemblant davantage aux Verts allemands, c'est-à-dire à des écolos de gouvernement. C'est tout ça qui rend quasi impossible cette recherche d'une union des gauches au désaccord entre partis. Il faut en effet ajouter les fractures à l'intérieur d'un même parti. L'union des gauches, il n'est pas nécessaire de l'espérer pour l'entreprendre.
Quelle équation ? Combien d'inconnus dans cette équation ?
Innombrables. Jusqu'à...
Ouais, merci. Votre édito politique tous les matins, Nicolas Bétou. Merci beaucoup, le directeur du journal L'Opinion. Et tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Et c'est le président de la République qui est venu lui dire un mot. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Béliard. Ah, quand... Monsieur Bétou parle de la gauche, c'est rendez-vous en terre inconnue. Écoutez, j'ai peu de conseils à donner à Barbara Pompili. Elle est formidable, vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne l'entend pas. C'est une sorte de, comment vous dire, de Nicolas Hulot, mais en mode silencieux. J'adore le concept. Bon, vous avez vu, j'ai fait le... Je me suis occupé du vote jeune avec ma vidéo McFly et Carlito.
Très impressionnant.
Oui, mais c'est important, M. Bétou. Il y a 5 millions de jeunes, ça compte. Heureusement qu'il n'y a pas 5 millions de naturistes, hein, sinon je ne vous dis pas la vidéo. Elle aurait été très sympa.
Tiens, il y a Ségolène Royal qui est là aussi.
Oui. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, M. Bétou, M. Béliard, bonjour Emmanuel. Écoute, je suis passé faire un coucou, hein, parce que j'ai, pour tout vous dire, un emploi du temps assez calme. Hein. Même déconfiné, c'est pas l'effervescence. Hein. Je ne suis pas en télétravail, je suis en téléchômage depuis une paye. Hein. Oui. Alors Barbara Pompili, j'ai remarqué, toujours en poste. Hein, mais tu m'étonnes qu'elle risque pas de faire de conneries vu qu'elle ne fait rien. Hein. D'habitude, la grande muette, c'est l'armée pour l'écologie. Hein. Alors écoutez, monsieur Béliard, au cas où, Barbara aurait un petit peu de panache et avait de l'élégance de démissionner en pleine interview comme Nicolas Hulot, au cas où je reste dans le coin. Hein, au cas où.
Elle se tient prête. Barbara Pompili à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk et la revue de presse à 8h45. A tout de suite sur Europe 1. Le temps avec vous, Laurent Cabrol.
Allez, rapidement, le soleil près de la Méditerranée. Si vous habitez l'estuaire de la Loire, le Poitou-Charentes, le sud-ouest, les Alpes et la région lyonnaise, des éclaircies cet après-midi. Si vous habitez la vallée de la Loire et l'Orléanais, ballon d'éclaircies ce matin, ensuite ça va se gâter. Bretagne-Normandie, la pluie arrive et ces pluies vont gagner l'Île-de-France en fin de journée. En Île-de-France, dans la journée, ce sera un temps mi-figue, mi-raisin. J'ai pas cité votre région ? C'est simple. Alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Voilà. Si je vous ai pas parlé de vous. Cabrol, calme-toi. 16 à 21 degrés, telles sont les températures maximales.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Très bon réveil à tous. Vous êtes sur Europe 1.